Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur une agence importante, l'ANSSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Et nous avons la chance d'avoir avec nous son directeur général, Guillaume Poupard. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors l'idée de cette première émission, parce qu'on en discutait hors antenne juste avant, je pense qu'on en fera une deuxième parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder, c'est d'essayer que les gens qui écoutent l'émission, que ce soit le grand public ou les spécialistes ou les professionnels, comprennent un peu mieux, découvrent peut-être ce qu'est l'ANSSI, ce qu'elle fait, et puis aussi certaines de ses positions sur les sujets évidemment qui nous intéressent, comme le logiciel libre et les accords avec certaines grandes entreprises américaines. Mais déjà peut-être première question, une question personnelle, le parcours, quel est votre parcours Guillaume Poupard?
Moi, je suis informaticien, je suis ingénieur, avec une thèse en cryptographie. Donc, je suis tombé dans la marmite cyber très tôt, à une époque où on ne parlait pas de cyber, et où, quelque part, le sujet, quand on aimait l'informatique, les maths et tout ça, c'était de faire de la crypto. D'abord pour faire de la recherche, et puis ensuite, pas au sein de l'ANSSI, mais au sein de la DCSSI, qui est l'ancêtre. Donc, j'ai commencé là-bas dans mon premier poste. En fait.
Donc, la DCSSI, c'est la Direction Centrale Système et Sécurité.
De la sécurité des systèmes d'information. Bon, tout ça est très techno, évidemment, mais c'est une autre époque. C'était il y a 20 ans. C'était un moment où, finalement, avec quelques dizaines de personnes, on arrivait à couvrir les questions en termes de sécurité numérique pour les besoins de l'État. Et on voit évidemment qu'aujourd'hui, les choses ont énormément évolué, avec une étape clé qui est la création de l'agence il y a 10 ans. Face à une prise de conscience de nos autorités sur les risques numériques, les risques qui allaient peser sur notre pays, sur nos concitoyens, sur ce qu'on appelle nos infrastructures critiques.
D'accord. On va y revenir juste après, on va finir juste la présentation personnelle, parce que j'ai vu aussi que vous aviez un diplôme en psychologie.
Oui, c'est celui qui me sert le plus.
Ouais. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'entre la compétence technique est très forte, parce que cryptographie, c'est quand même du haut niveau, et la compétence en psychologie, laquelle vous sert le plus dans votre rôle de directeur de l'ANSSI?
C'est définitivement celui en psycho. D'abord à la tête de l'agence, c'est une belle agence avec, on est 600 experts, et des gens de haut niveau très engagés, donc parfois ça nécessite un peu de psycho, et puis surtout vis-à-vis de tous les gens qu'on veut protéger. Protéger les victimes, c'est facile, parce que c'est un peu comme les pompiers, quand ils arrivent sur un sinistre, les choses sont simples, mais quand on arrive avant, finalement, pour prévenir les gens qu'il y a de vrais risques, alors qu'ils n'en sont pas conscients, là, la psycho est fondamentale pour essayer d'être un peu convaincant.
D'accord. Alors, vous aviez commencé à présenter l'ANSSI, justement, donc je vais vous poser la question. D'où vient l'ANSSI qui fête donc ses 10 ans aujourd'hui? Si j'ai bien suivi, si j'ai bien préparé, c'est suite notamment à une attaque célèbre contre l'Estonie en 2007, qui a commencé à avoir une réflexion, une attaque contre le système d'information de l'Estonie, qui est très en avance sur l'informatisation de l'État, en 2007, qui a commencé à y avoir une réflexion en interne au niveau français pour créer une agence spécialisée. Est-ce que c'est bien ça et comment ça s'est fait?
C'est exactement ça. En fait, régulièrement, il y a des travaux stratégiques qui sont faits en France, comme dans les autres pays, pour se dire quels sont les risques qui pèsent sur la nation et comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir. Donc en général, dans ces travaux, on parle de risques militaires, de risques terroristes, enfin c'est tous les malheurs du monde qui défilent. Et en 2008, ces travaux ont été menés juste après une attaque en Estonie en 2007. Attaque qui est intéressante, qu'on a presque oublié depuis, mais qui est intéressante parce que l'Estonie, comme vous le disiez, a été probablement le pays le plus en avance sur la numérisation. C'est un pari, en fait, là où ils sont placés avec peu de ressources naturelles, peu d'habitants, une position géographique un peu compliquée. Le pari de l'Estonie pour exister, c'est le numérique. Et en fait, en 2007, c'est une anecdote, ils avaient déplacé la statue à la gloire du soldat russe, qui n'était pas, c'est pas la statue qu'ils préfèrent, les Estoniens, quand on leur en parle. Et ça a créé une colère de la part de certains partisans russes, on va dire. Tout ce que je dis là est en source ouverte, évidemment. Et il y a eu plein d'attaques contre ces systèmes numériques. Ce qui fait que, du jour au lendemain, les Estoniens se sont retrouvés sans transport en commun, sans banque, sans système de santé, et ce, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, un an après, quand on a fait ces travaux stratégiques, on s'est dit, mais là, il y a la menace du futur. Une des menaces du futur, c'est cette menace numérique. On va se numériser, nous aussi, bien évidemment, et il faut impérativement que cette numérisation elle, se fasse dans de bonnes conditions et que ça ne devienne pas notre talon d'Achille, comme ça a été le cas en 2007 en Estonie. D'où deux décisions, une qui est de développer des capacités offensives qui sont assumées en France, et une autre décision qui est de créer une agence qui allait devenir l'ANSSI, en charge vraiment des questions de protection, de prévention, de détection des attaques et d'aide aux victimes, en commençant par les victimes les plus critiques, donc celles dont le fonctionnement est essentiel à la nation. Et dans un modèle qui est assez original, puisque à cette époque, nos alliés anglo-saxons étaient partis plutôt sur un mélange des genres entre attaque et défense. En France, les choses sont claires, les différents métiers existent, les différentes missions existent, mais l'ANSSI est une agence purement protectrice, au sens où elle ne fait pas d'attaque, Elle n'est pas service d'enseignement, elle n'est pas service de police. Donc on coopère, bien évidemment, on a des liens avec les autres services, mais on a une mission qui est très claire, qui évite toute forme d'ambiguïté, et pour nos agents, et pour ceux qu'on veut protéger, qu'ils soient victimes ou bien en prévention. Donc ça, c'est un modèle qui était très original à l'époque, qui a plutôt fait école depuis, et qui nous positionne, voilà, sans rentrer trop dans des détails techno, on est rattaché au Premier ministre. Ce qui nous permet d'être relativement neutre, de travailler avec l'ensemble des administrations, l'ensemble des ministères, et en même temps d'avoir nos capacités en propre. Et aujourd'hui, on est 600. Voilà, c'est 600 experts qui travaillent à l'ANSSI, vraiment sur toutes les thématiques, tous les champs qui permettent à la fin d'élever le niveau de sécurité au juste niveau pour les acteurs les plus critiques en France.
D'accord. Alors, ce qui est très bien avec Guillaume Poupard, c'est qu'il répond à une partie des questions que j'ai déjà préparées sur la présentation de l'ANSSI. Donc, c'est absolument génial. Comme vous dites 600 personnes, donc je vais directement aller à cette question-là. Quel type de profil vous recrutez? Comment vous les recrutez? Parce que j'imagine que c'est quand même des profils souvent de haut niveau qui peuvent être pistés par des grandes entreprises. Donc, quelle est la motivation des gens qui viennent travailler à l'ANSSI?
Alors ce sujet, on parle de ressources humaines en général, mais un terme que j'aime pas trop, mais enfin, c'est bien ça la question. La richesse de l'agence et ce qui fait qu'on est efficace, c'est la qualité de nos experts. Et donc évidemment, il y a une question majeure qui est d'attirer des talents pour venir renforcer les rangs de l'ANSSI, pour pouvoir remplir nos missions. Et ce, évidemment, dans des conditions de concurrence assez fortes. Aujourd'hui, sur le marché du travail, en termes de sécurité numérique, il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Hein. Le marché est très déséquilibré, il continue à se déséquilibrer. Hein. La demande continue à croître parce que tout le monde a besoin de se protéger. Les entreprises privées ont besoin de développer des capacités en termes de cybersécurité. Et donc, quelque part, pour schématiser, ce qu'on propose à l'ANSSI, c'est d'abord d'embaucher des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes sortis d'école à l'ANSSI, mais c'est quand même le processus majoritaire. Faire venir des jeunes, le faire également un peu par la connaissance, par le bouche à oreille. Donc c'est souvent des gens qui sont déjà à l'ANSSI qui attirent d'autres personnes au sein de l'agence. Et puis ce qui est absolument essentiel, c'est de proposer des métiers, des valeurs qui soient en adéquation avec ce que pensent nos experts. Et donc, idéalement, et je pense que c'est le cas, quelqu'un qui vient chez nous, il fait quelque chose qu'il ne pourrait pas faire ailleurs, il fait quelque chose d'exceptionnel, il fait quelque chose d'utile au niveau national, que ce soit en prévention ou bien en aide aux victimes. Et ça, c'est la grande motivation, je pense, de nos agents. Sachant qu'après, on ne passe pas sa vie à l'ANSSI, probablement, il faut raisonner de
Il y a
manière
même
beaucoup
une
plus
vie avant
ouverte.
l'ANSSI pour certaines personnes.
Alors certains commencent avant, et bien heureusement. Et puis après, il y a autre chose après l'ANSSI. Et ça, c'est très très bien parce qu'on voit aujourd'hui, 10 ans après, on commence à voir tout un écosystème qui s'est construit. Et souvent, quand on a affaire à des partenaires nationaux au sein des entreprises ou au sein du secteur public, on commence à voir des anciens de l'ANSSI qui sont là. Et cet écosystème, il est excellent parce que on se comprend, on sait comment on travaille et on est très efficace. C'est d'autant plus important que quand il y a une crise, par exemple, quand il y a une attaque forte, quelque chose comme ça, chaque minute compte. Et je dis ça sans dramatiser, c'est la réalité. Et quand on se connaît déjà, quand les liens sont bien établis, c'est particulièrement efficace. Donc voilà,
D'accord.
l'ANSSI, c'est un truc un peu bizarre d'un point de vue administratif. Dans les services du Premier ministre, c'est pas classique. 600 personnes, c'est une grosse entité. 80% de contractuels, c'est totalement atypique pour un service du Premier ministre. Mais c'est assumé comme tel, c'est assumé avec bienveillance. Et on essaye de faire en sorte que les conditions globales de nos experts soient les meilleures possibles pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Tout ça est très, très cynique, évidemment.
Dernière question sur la présentation générale de l'ANSSI. Donc, quand l'ANSSI a été créé, bon, je suppose qu'il y avait quoi, peut-être 10 ou 20 personnes ou
Une centaine.
une
Une
centaine.
centaine,
Donc,
quand même.
on est passé de 100 à 600. En 10 ans, en introduction, on a parlé de l'attaque contre le système d'information de l'Estonie. Je suppose que les menaces ont évolué. Alors, assez rapidement, quelle a été la principale évolution? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'ANSSI, par exemple, a encore besoin de plus de gens? Ou est-ce que finalement, avec 600 personnes, plus les experts qui essaiment dans les structures privées ou publiques, ça suffit?
La menace, elle évolue très clairement. La menace d'il y a 10 ans, la menace réelle, c'était de l'espionnage, qui existait déjà, de l'espionnage industriel, de l'espionnage stratégique. Les États s'espionnent entre eux, hein, c'est comme ça que va le monde. En l'espace de 10 ans, on a vu se développer d'autres risques qu'on avait identifiés, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Estonie, qui sont des risques pas uniquement en espionnage, mais bien avec des risques d'atteinte au fonctionnement des systèmes. Et on voit très bien, et c'est un peu d'actualité, si les transports ne fonctionnent plus, si l'énergie ne fonctionne plus, si les télécoms ne fonctionnent plus, immédiatement les conséquences sur le pays, sur l'économie, mais pas seulement, hein, sur la vie et la sécurité même de nos concitoyens, peut très vite être grave. Il y a 15 jours, c'était un hôpital qui se faisait
À Rouen.
attaquer à Rouen. Ça fait partie des scénarios qu'on avait anticipés. Et pour lesquels notre rôle, fondamentalement, il est d'essayer d'anticiper ce genre d'attaque et, dans le pire des cas où ça se produit, d'être capable de réagir. Donc, c'est quelque chose qui s'est quand même rapidement développé. Et puis, on a d'autres types d'attaques qu'on n'avait pas forcément vu venir, eux, par contre. C'est notamment tous les risques pesant sur des mécanismes démocratiques comme les élections, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, les élections sont des moments à risque, où certains seront tentés d'interférer, de nuire au bon déroulement des élections. Ça s'est déroulé aux États-Unis en 2016, ça a failli se dérouler en France en 2017, et dorénavant, on aura besoin de lutter contre ça aussi. Et sur la question des moyens, est-ce qu'on est suffisamment nombreux? Donc, un directeur, il dira toujours qu'il n'y a pas assez de ressources, ça fait partie de la fiche de poste, mais plus sérieusement, je pense que l'ANSSI va continuer à croître un petit peu, mais il faut éviter la boulimie, et surtout, il faut éviter de déresponsabiliser les autres acteurs. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas à 600 ou à 1000 qu'on va protéger la France contre toutes les menaces numériques. L'important, c'est qu'on soit là pour créer une politique, une stratégie qui soit structurée, que chacun soit à son rôle. Et puis à la fin, c'est bien à chacun de se protéger fondamentalement à l'ensemble des échelles, à titre individuel en tant que personne, au niveau des sociétés, au niveau des administrations. C'est vraiment quelque chose multi-échelle, la protection numérique.
Bon, c'est super, vous faites même les enchaînements sur le sujet d'après. Donc ANSSI, c'est finalement c'est prévention-réaction, quelque part.
Avec
Vous êtes
détection au milieu.
avec détection au milieu, effectivement. Et vous avez parlé des élections, ça me fait penser qu'on fera sans doute en 2020 un sujet sur les ordinateurs de vote. Je ne vais pas vous demander votre avis aujourd'hui, parce que sinon on va dépasser le temps imparti, mais je pense qu'on fera un
Je garde
sujet.
alors.
Pardon?
Je garde mon avis alors.
Alors voilà. Bon, après, vous parlez de ce que vous voulez, vous êtes notre invité, mais je pense qu'on fera un sujet sur ce. Enfin, une émission sur ce sujet-là. Vous voulez parler effectivement donc, que c'est la responsabilité de toutes les personnes, et on pourrait penser donc à nous écouter que l'ANSSI, c'est pour les spécialistes d'informatique, c'est pour les grandes entreprises, pour les grands centres publics, les CHU de Rouen dont on a parlé, donc qui a subi une cyberattaque de type rançongiciel il y a quelque temps et sur lequel vous êtes intervenu. Mais ça concerne aussi le grand public, comme vous l'avez dit. Alors justement, un rôle méconnu et que moi je ne connaissais moins finalement de l'ANSSI avant de préparer l'émission, c'est la présence de guides pratiques, de guides d'hygiène numérique qui s'adressent directement au grand public. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de ce que se proposent ces guides et quelle cible ça, quel type de public ça cible?
Alors c'est vrai que la priorité de l'agence, on va pas se mentir, c'est vraiment les acteurs les plus critiques, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, qui sont vraiment ces acteurs publics ou privés dont le fonctionnement est essentiel à la sécurité nationale. En fait, quand on déroule un petit peu la logique qu'il y a autour de ça, on se rend compte que au-delà de la protection de ces grandes entreprises, il y a tout un écosystème à protéger. Et puis à la fin, c'est bien des femmes et des hommes qui vont utiliser les moyens numériques. Et s'ils n'ont pas les bonnes pratiques, mon prédécesseur parlait d'hygiène informatique. C'est assez parlant. Bah, et je pense que le terme est bon, même s'il est choquant, il est bon. Aujourd'hui, la plupart des personnes ont une mauvaise hygiène informatique, ce qui fait que ça favorise énormément le travail des attaquants. Parfois, il n'y a même pas de mérite. Et en même temps, l'hygiène, c'est pas si compliqué une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Et donc, le fait d'apprendre aux personnes, soit nous directement, soit aux couleurs des différentes entreprises ou des différentes entités, leur apprendre les gestes essentiels. On fait attention à des mails bizarres, on fait attention à ses clés USB, on ne recharge pas son téléphone n'importe où, on fait attention à ses mots de passe. Autant de règles, une fois qu'on les a comprises, qui sont des évidences, mais quand on les a jamais entendues expliquer, c'est pas si évident que ça. Ça fait également partie de nos missions de fournir comme ça des guides expliquant, soit au plus grand public, soit on a d'autres guides qui sont plus spécialisés, les bonnes pratiques à mettre en place pour faire de la sécurité numérique. Et si je peux faire une parenthèse,
Allez-y.
l'ANSSI évidemment a un rôle dans ce domaine-là. Il y a également une autre initiative qui elle est vraiment ciblée sur les individus et les petites structures comme les PME. C'est la plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Bon, son nom et son URL se confondent. C'est une démarche. Alors, l'ANSSI est très présente. Je suis président de la structure, mais elle a une existence en propre. Il y a d'autres administrations, d'autres ministères qui sont associés. Il y a surtout des acteurs privés qui nous ont rejoints, des opérateurs, des éditeurs, y compris des éditeurs que vous n'aimez pas. Mais en gros, des gens qui sont là pour porter cette cause commune, quelque part, qui est de développer une forme de sécurité numérique. Donc, cette plateforme, elle est intéressante parce qu'elle reprend tous les codes et tout le matériel de sensibilisation, mais également, elle propose des solutions pour les gens qui sont victimes. Si à titre individuel, vous êtes victime d'une tentative d'escroquerie, d'un rançongiciel, de quelque chose comme ça, évidemment, la bonne solution, ce n'est pas la même que celle pour un opérateur d'importance vitale coté au CAC 40. Et nous, on ne peut pas faire grand-chose pour des particuliers. C'est évident qu'on n'a pas les capacités ou la structure pour y répondre. Et cette plateforme, elle a le grand mérite de mettre en relation des prestataires locaux qui sont prêts à faire ça, qui sont souvent des petits prestataires informatiques, voilà, mais qui s'engagent en signant une charte et qui peuvent travailler pour des particuliers. Or, très souvent, ça revient à essayer de récupérer des fichiers, de remettre l'ordinateur en état. Enfin, c'est pas des grandes opérations de cyberdéfense, mais pour les victimes qui sont touchées, ça apporte une aide concrète, une aide que les forces de police et de gendarmerie ne peuvent pas apporter, bien évidemment. Ils sont là pour prendre la plainte, mais certainement pas pour réparer les choses. Donc ça, c'est une initiative qui mérite d'être mieux connue, je pense, et qui, pour ceux qui sont touchés par telles attaques, est particulièrement pratique. Donc, je répète, c'est cybermalveillance.gouv.fr.
On remettra les références aussi sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. Vous parliez des moyens que vous ne pouvez pas intervenir partout. Ça me fait venir une question. Est-ce que vous avez des sortes de référents dans les régions, par exemple, qui ne s'adressent pas forcément au grand public, ça j'ai bien compris, mais qui pourraient s'adresser aux PME, PMI, aux entreprises? Est-ce que vous avez ce mécanisme?
Alors c'est vrai que l'ANSSI, c'est une agence qui est parisienne, hein, bah, par sa localisation, avec une capacité de déploiement rapide chez des victimes, hein, comme on l'a fait à Rouen. Mais fondamentalement, on est à Paris et on a ressenti le besoin il y a quelques années d'avoir des référents en région. Donc on va pas mettre des dizaines ou des centaines de personnes en région, mais aujourd'hui, j'ai un référent par région, donc ça en fait 13 en France métropolitaine, dont le rôle est d'aller se connecter aux différents réseaux locaux. Et les réseaux locaux, ça peut être les réseaux des chambres de commerce et d'industrie, des réseaux portés par la préfecture, des réseaux portés par des associations d'entreprises. Moi, je prends tout, hein, quelque part. L'important, c'est de voir qui est actif, qui a envie de faire. Et donc, nous, on arrive, notre référent, il arrive avec de la matière, avec des supports, avec la possibilité d'intervenir dans des conférences, des choses comme ça. Et il me sert également de capteur pour faire remonter les besoins locaux. Et on se rend compte que finalement, d'une région à l'autre, alors c'est souvent lié à l'activité économique, hein, ou à la spécialisation, les besoins ne sont pas les mêmes. Et ça nous permet de répondre au mieux et de commencer à adapter notre réponse et à la rendre un peu moins générique, un peu plus adaptée à des besoins locaux.
D'accord.
Donc ce n'est pas encore du déploiement territorial, et ça ne le deviendra pas, mais le fait de couvrir l'ensemble de la France, métropole, mais également outre-mer, puisqu'on a évidemment des zones très sensibles outre-mer, c'est quelque chose qui doit être impérativement conduit. Il n'y a pas que Paris à protéger.
D'accord. Et donc pour revenir sur la partie grand public, je crois que vous avez aussi une autre initiative qui est SecNum Academy, donc une formation en ligne.
Exactement.
Ce qu'on appelle un MOOC aujourd'hui, mais c'est la formation en ligne. Donc c'est une formation ouverte pour toutes les personnes, grand public et professionnel,
ou c'est ouvert à tout le monde.
D'accord.
C'est ouvert à tout le monde. L'idée,
c'est gratuit, payant.
C'est gratuit. On est très fiers de ce MOOC. C'est le premier MOOC de France en termes d'audience. C'est une belle réussite. C'est vraiment pour apprendre les bases de la sécurité numérique. Et l'usage, alors certaines entreprises ou certaines administrations le reprennent à leur compte et le rendent soit fortement incitatif, soit obligatoire, hein, dans le cadre des formations professionnelles. N'importe qui peut s'y inscrire sur notre site ssi.gouv.fr qui redirige vers le MOOC. Le seul truc, je le dis au passage, il y a besoin de s'enregistrer. C'est certainement pas pour faire du suivi ou du tracking des stagiaires comme le font la plupart des MOOC, parce qu'il faut bien qu'il y ait un modèle économique derrière. Nous, on gagne pas d'argent, évidemment, avec le MOOC. Par contre, l'inscription, il y a à peu près une vingtaine d'heures de MOOC, donc ça évite de faire les 20 heures d'affilée, ce qui fait un peu mal à la tête. Et donc, ça permet de revenir là où on en était. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est quelque chose qui est utile et que l'on donne également. Hein, Le but, c'est pas d'en être propriétaire, c'est pas de faire des profits là-dessus, c'est que ce soit utilisé le plus possible. Et on a certaines entreprises qui le reprennent, qui le complètent avec des modules qui leur sont propres, et notamment à usage interne en termes de formation.
D'accord. Alors sur le salon web, aujourd'hui qui n'est pas vraiment un salon web, il y a une remarque de quelqu'un qui, quand vous avez dit vous avez cité ou non cité plutôt des éditeurs qu'on n'aime pas, c'est pas les éditeurs qu'on n'aime pas, c'est les pratiques consistant à priver les personnes de leur liberté informatique. Vous voyez, comme il y a des gens qui nous écoutent, donc je relais la remarque.
Très bien, c'est plus précis.
Voilà, c'est plus précis en tout cas. Donc voilà, en tout cas, j'invite donc évidemment les personnes qui nous écoutent, hein, donc vous avez bien compris, donc que ce soit grand public ou professionnel, allez sur le site de l'ANSSI, ssi.gouv.fr, pour retrouver à la fois les guides dont on a parlé, les règles d'hygiène, effectivement, qu'il faut apprendre. Est-ce qu'on peut toutes les appliquer? Ça, c'est autre chose. Et puis, cette fameuse formation donc, en ligne ouverte à toute personne d'une durée de 20 heures. Donc, vous découvrirez donc, que l'ANSSI, c'est aussi fait pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient, et pas uniquement les professionnels de la sécurité, ou plutôt tout le monde doit s'intéresser à ce sujet de la sécurité.
C'est exactement ça. On sait très bien que la sécurité numérique ne doit pas rester la chasse gardée de quelques experts, ça ne marche pas. Donc chacun est utilisateur de moyens numériques, ou quasiment, donc chacun a un rôle à jouer. Et puis les autres qui ont un rôle à jouer, c'est typiquement les décideurs, qu'ils soient publics, politiques ou privés. Moi, je passe mon temps avec mon bâton de pèlerin à leur expliquer qu'ils ne sont peut-être pas experts en sécurité numérique, ils ne sont peut-être pas informaticiens, peut-être qu'ils n'y comprennent rien, mais fondamentalement, c'est leur responsabilité aujourd'hui de développer la sécurité numérique, parce que les conséquences peuvent être telles que là, pour le coup, ça devient vraiment leur responsabilité. Donc ça concerne tout le monde aujourd'hui, ces questions-là.
Alors, on va continuer la discussion et on va aborder après la partie logiciel libre et ce que fait l'ANSSI par rapport au logiciel libre. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Follow Me par Vendredi. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. In the movies, I've been a part-time shadow cat. Part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Nous venons d'écouter Follow Me par Vendredi, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Si vous voulez participer à notre conversation, vous pouvez appeler le 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Patrick prendra votre appel. Donc, nous poursuivons notre sujet donc, sur l'ANSSI avec Guillaume Poupard, son directeur général. Juste avant la pause musicale, on parlait donc du rôle de l'ANSSI, notamment par rapport au grand public et du rôle de toutes les personnes par rapport à la sécurité. Là, on va aborder un sujet qui nous tient évidemment à cœur à l'April, hein, l'association de promotion et défense du logiciel libre. C'est la question de la sécurité par la transparence versus la sécurité par les boîtes noires. Et plus globalement, la position qu'a l'ANSSI sur le lien entre sécurité, logiciel libre et logiciel privateur. Donc, quelle est la doctrine de l'ANSSI à ce sujet-là ?
La doctrine, elle se veut assez équilibrée, au sens où pour nous, l'objectif à la fin, c'est que les systèmes soient sécurisés face au bon niveau, face à des menaces identifiées. Tout ce blabla pour dire que l'important, c'est le résultat qui compte. On veut éviter de tomber dans la caricature, d'une part. Il n'y aurait pas d'un côté un logiciel libre ou du logiciel libre qui serait forcément sécurisé et de l'autre côté des logiciels propriétaires qui seraient forcément mauvais en termes de sécurité. C'est évidemment plus complexe que ça. Donc nous, ce que l'on souhaite vraiment, c'est que ce qui est utilisé par nos clients, entre guillemets, soit d'un bon niveau de sécurité et soit bien utilisé. Une fois qu'on a dit ça, donc c'est un peu les mentions de protection légale, il est évident que quand on veut rentrer dans un produit logiciel, quand on veut se convaincre de son niveau de sécurité, nous on promeut énormément de la certification, de l'évaluation, de manière à pouvoir attester auprès des utilisateurs qui ne sont pas forcément des experts et qui ont forcément le temps, du niveau de qualité atteint par des produits. On sait le faire pour des produits propriétaires, aussi bien que pour des produits open source, directement disponible. Après, l'important, c'est de voir quelle est la démarche qu'il peut y avoir derrière, comment est conduite l'évaluation, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est pas pour dire qu'il y a forcément un système meilleur qu'un autre. C'est plus compliqué que ça en pratique. Voilà. L'autre chose, évidemment, pour nous, on ne peut pas faire de l'usage du logiciel libre un prérequis pour travailler avec tous ceux avec qui on doit travailler ou avec qui on a envie de travailler. Donc quand on arrive chez une victime qui est intégralement équipée en logiciel propriétaire, on ne va pas lui dire « c'est bien fait pour toi
». Même là-dessus, nous sommes d'accord.
Voilà, c'est des évidences. Enfin, la dernière remarque un peu préliminaire que je peux faire, c'est que on a quand même affaire à beaucoup de clients, je rajoute les guillemets, de clients qui ne sont pas équipés pour bien gérer du logiciel open source. Ça demande une démarche, ça demande un effort. Ceux qui atteignent un certain niveau de maturité, ils y vont naturellement, très souvent. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à ce niveau de maturité, justement, notamment dans beaucoup d'entreprises où, pendant très longtemps, le message qu'on leur a martelé dans le crâne au niveau commercial, c'était que l'informatique, c'était du soutien, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, c'est quelque chose qu'il faut sous-traiter. Et ces gens-là sont devenus totalement dépendants de leurs sous-traitants. Et je parle aussi bien finalement d'acteurs publics que d'acteurs privés en parlant de ça. Et donc, revenir vers eux en disant non, il faut tout changer, il faut passer à des logiciels que vous maîtrisez, des architectures que vous maîtrisez, et ainsi de suite, ça fait beaucoup d'un coup. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous, on essaye de s'adapter, on essaye de pousser nos partenaires à plus de maîtrise des architectures, à plus de maîtrise de ce qu'ils déploient dessus, et puis, quelles que soient les solutions déployées, à bien le faire en termes de sécurité. Que ce soit, une fois encore, que ce soit libre ou propriétaire, très souvent c'est mal fait. C'est ce qu'on observe dans le cadre des audits. Donc il y a un vrai progrès à mener.
D'accord. De toute façon, nous, on ne dit pas forcément que le logiciel libre, c'est la garantie à 100%. On pense que c'est une brique essentielle, mais que ça dépend évidemment des ressources, comme vous le dites, et puis d'un certain nombre de facteurs. Mais alors, vous parlez de maturité, je ne peux pas m'empêcher, enfin, de l'absence de certaines maturités dans certains acteurs, je ne peux pas m'empêcher de penser au ministère de la Défense. Est-ce que donc, le ministère de la Défense manque de maturité pour, depuis des années, être pieds et poings liés avec Microsoft? Ça, c'est ma première question, puis j'en ai d'autres derrière.
Oui, c'est une question récurrente. La logique du ministère de la Défense, là, je suis extérieur au débat, hein, fondamentalement. Ça a été une logique, mais vous le savez, hein, qui est une logique assez comptable. Finalement, de dire, bah, plutôt que d'avoir 3000 contrats avec le même éditeur, on va tout rassembler dans un seul contrat. Le gros danger, évidemment, de ce genre de démarche, c'est que ça rend assez facile le fait de passer par ces solutions-là, et du coup plus compliqué le fait de faire l'effort d'aller vers des solutions mieux maîtrisées, plus sûres peut-être, et encore, là le débat mériterait d'être creusé, ça dépend des cas, et en tout cas qui permettent de garantir une plus forte souveraineté. En fait, le vrai sujet, il est là. Qu'est-ce que l'on veut maîtriser par nous-mêmes pour assurer notre souveraineté, notre autonomie? Alors souveraineté, c'est un terme important, mais au sens de notre autonomie de décision, d'action. On sait que dans le domaine militaire, notamment en France, on construit notre propre armement de manière à rester souverain et à ne pas être dépendant. Il ne faudrait surtout pas que dans le domaine numérique, dans le domaine logiciel, on devienne à notre insu dépendant et que finalement tous les efforts qu'on a faits pour avoir une souveraineté au sens très fort du terme, soit un peu battu en brèche par une dépendance à des éditeurs logiciels non européens.
Alors justement, Alors, je bascule directement sur une de mes dernières questions, parce que vous abordez le sujet que je voulais aborder à la fin, si on avait le temps. Récemment, donc, il y a eu une commission d'enquête sur la souveraineté numérique, à laquelle l'April a été auditionnée. Vous avez été auditionné à huis clos, ainsi que trois autres structures à huis clos, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Mais alors, même si vous avez commencé un petit peu à répondre à la question, j'aimerais bien que vous précisiez ce que vous entendez, vous, par souveraineté numérique de l'État, et par quoi ça passe principalement? C'est quoi les principaux facteurs de cette souveraineté numérique de l'État, et qu'est-ce que c'est cette souveraineté numérique de l'État?
Oui, alors, auditionner à huis clos, non pas que j'ai des choses à cacher, mais simplement que, là, évidemment, quand c'est à huis clos, je peux dire des choses plus facilement que
Ah ben,
quand c'est
on comprend
retranscrit.
parfaitement, ouais.
Donc voilà, c'était un choix qui avait été fait avec les parlementaires de la commission. La souveraineté, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Ça consiste à garder une vraie capacité, un vrai libre arbitre dans le choix des solutions, dans la confiance que l'on a de ce que l'on développe, numérique ou pas, mais ça s'applique particulièrement au numérique. Et ça ne doit surtout pas être confondu avec une forme de protectionnisme ou une forme un peu obsessionnelle de la souveraineté qui consiste à vouloir tout faire au niveau national, en France.
Donc pas d'OS
Si.
souverain par exemple, pas de site d'exploitation souverain.
C'est pas mon truc, l'OS souverain, j'ai eu l'occasion de m'expliquer là-dessus. Si on veut tout faire nous-mêmes, si on veut faire nos propres composants, nos propres ordinateurs, nos propres OS, nos propres logiciels, tout ça, je connais le résultat, c'est qu'on ne va pas y arriver. C'est pas que ça me réjouit, c'est juste, personne, quasiment personne ne peut faire ça. Je pense même personne aujourd'hui au monde. Il n'y a aucun pays, même les plus puissants, capable de faire ça par eux-mêmes, ou bien ils renoncent au progrès technologique. Par contre, assurer sa souveraineté au sens maîtriser ses systèmes, en garantir la sécurité et en garantir la capacité de fonctionnement et l'accès à ces systèmes, même si des ennemis ou des alliés changent d'avis au niveau économique à notre sujet, ça c'est faisable. Et la ligne de crête à suivre pour un pays comme la France, et que l'on peut encore suivre encore aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de maîtriser les architectures de ces systèmes. Il faut comprendre comment ça marche. Quand on ne
Donc,
comprend plus comment ça marche, ça n'a aucune chance d'être maîtrisé.
architecture logicielle et matérielle, donc.
Logiciel et matériel, mais un data center peut être maîtrisé en termes d'architecture sans forcément maîtriser tout ce qu'il y a dans les
Oui,
composants.
d'accord.
L'idée, c'est bien de maîtriser l'architecture, de concevoir des architectures en tenant compte de ce besoin de souveraineté, pour ensuite voir quelles sont les briques que l'on peut acheter n'importe où, fondamentalement, sur étagère, n'importe où. Quelles sont à l'autre bout du spectre les briques logicielles ou matérielles que l'on doit à tout prix fabriquer par nous-mêmes dans des conditions de confiance très élevées. Et entre les deux, tous les scénarios sont possibles. Et c'est là où le logiciel libre a tout son intérêt. Et c'est là où vous seriez surpris de voir, y compris dans des systèmes extrêmement sensibles, voilà, des systèmes d'armes, des choses comme ça, il y a de plus en plus de logiciels libres parce que c'est des logiciels beaucoup plus faciles à maîtriser et à intégrer quand on a la main sur l'architecture. Le gros problème de certaines solutions propriétaires, c'est que elles ont tendance à faire perdre la main sur le fonctionnement de l'architecture et à nous déposséder de tout ça et donc à nous faire renoncer à la souveraineté. Donc c'est là où le libre devient vraiment une solution intéressante, mais j'insiste là-dessus, à condition d'avoir cette capacité de définir les architectures, de les mettre en œuvre et de les maîtriser dans le temps. Il y a un autre sujet qui est très actuel, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les réseaux télécoms. Il y a un débat qui est importé de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, qui voudrait nous faire croire que la sécurité d'un réseau 5G, c'est se résume au choix d'un équipementier. Ça, j'y crois pas du tout. Un réseau 5G bien sécurisé, ce sera un réseau dont l'architecture sera maîtrisée par les opérateurs, dont l'opération sera maîtrisée par les opérateurs. Et évidemment, après, peut-être que dans cette architecture, si l'analyse est bien faite, on en viendra à décider que tel ou tel équipement est plus sensible qu'un autre, et il faut faire attention à l'origine de l'équipement. Voilà, suivez mon regard. Mais tout résumé à l'origine des
Je vois pas où vous
équipements,
voulez en
pas du
venir.
tout. Voilà, en gros dire, là, il faut pas d'équipement chinois dans le réseau pour faire un réseau sécurisé, c'est complètement faux. Avec des équipements européens, on peut faire de très mauvais réseaux télécoms, c'est évident. Donc il faut maîtriser l'architecture, il faut des experts en termes d'architecture de sécurité, il faut que les opérateurs télécoms gardent cette maîtrise. Et à ce prix-là, on peut rester souverain sur ces questions-là. Alors, à l'instant, je parlais de souveraineté nationale, mais de plus en plus, c'est une question de souveraineté européenne qui se pose, parce que on a les mêmes problématiques que les autres États membres de l'Union européenne. On a un droit commun, on a des valeurs communes. Donc, fondamentalement, typiquement sur les questions télécom, c'est des questions qui doivent remonter à l'échelle européenne, même si on ne veut pas renoncer à une souveraineté nationale. Là, ça devient un peu technique.
Ouais, en tout cas, c'est l'importance de cette souveraineté, finalement, cette souveraineté numérique qui est les conditions d'exploitation et de mise en œuvre de nos activités et libertés fondamentales dans les réseaux informatiques. Donc, c'est un
Exactement.
sujet très essentiel et j'invite les personnes à consulter le rapport donc, de la commission du du Sénat, une commission d'enquête sur le Sénat, qui d'ailleurs encourage, il y a une recommandation, à mettre en place une politique publique logicielle libre. Donc on verra si ça sera suivi des faits. En tout cas, c'est passionnant. Donc on va. Ah si, j'avais une dernière question sur la partie licence, enfin audit, quand vous avez parlé tout à l'heure des audits et des systèmes privateurs. On sait que, bon, il y a ce qu'on appelle des accords de sécurité entre État et certains éditeurs. Est-ce que ces accords vous donnent par exemple accès au code source de certains logiciels ? Sans citer de nom forcément, mais pour l'audit, par exemple.
Oui, ça peut.
Ça peut.
Ça peut. Quand on évalue en France des systèmes logiciels, en général, on demande l'accès au code source. Parce que sincèrement, évaluer la boîte, ça a un intérêt très limité. Ou faire ça en boîte noire, ça peut se faire pour des bas niveaux de sécurité, mais à haut niveau de sécurité, ça ne fonctionne pas. Donc on demande l'accès au code source. Et les accords que l'on a, ce sont des accords qui visent à rassurer tout le monde. À rassurer d'une part les éditeurs, pour garantir que le but, ce n'est pas de voler leur propriété intellectuelle, et c'est normal. Et d'autre part, nous protéger, nous, quelque part, pour nous assurer qu'on a bien accès, lors de l'évaluation, aux bonnes informations. Et surtout après, ce qui est intéressant, c'est toute la démarche qui va se mettre en place en termes de gestion des vulnérabilités, de correction des vulnérabilités. Donc on veut s'assurer, évidemment, qu'il n'y a pas de vulnérabilité volontaire, évidemment, ou involontaire au départ, mais on veut également que tout ce qui pourrait découvrir après puisse être corrigé. Donc voilà, c'est ça qu'il y a dans les accords. On a d'autres accords, nous, avec pas mal d'éditeurs. Moi, je suis très opportuniste, finalement, dans la relation avec les éditeurs de sécurité, soit ceux qui développent du logiciel, soit ceux qui font de la cybersécurité en général. Et ils sont souvent prêts à nous donner pas mal d'informations en avant-première sur les problèmes de sécurité qui sont identifiés. Ils voient bien qu'on est une agence d'État, qu'on est des gens sérieux, qu'on est là que pour faire du défensif, hein, pas pour faire de l'offensif. Donc, au fil des années, on a mis en place des accords qui nous permettent de bénéficier d'informations. Je dis en avant-première, c'est parce que y a des fois, l'idée, c'est d'avoir l'info quelques jours avant pour pouvoir éviter un effet d'aubaine quand certaines vulnérabilités sont révélées ou certains patchs sont mis en ligne.
Un patch, c'est une correction.
Une correction, voilà, exactement. Donc, que nous, on soit prêts à nous assurer que voilà, ces corrections sont bien appliquées. Donc voilà, ça fait en pratique beaucoup d'accords, pas uniquement avec des acteurs européens, mais également avec beaucoup d'acteurs américains. En pratique.
D'accord. Alors, on va revenir sur la partie logiciel libre. Alors, je vois que le temps file, mais c'est tout à fait passionnant. Donc, on a bien compris la doctrine, ou en tout cas la position de l'ANSSI par rapport au logiciel libre versus logiciel privateur. Mais on a pu noter quand même depuis quelques temps, maintenant, peut-être 2-3 ans, une accélération de la publication de codes sources en logiciel libre fait par l'ANSSI. Hein. Donc quelle est cette politique? Pourquoi faire ça? Comment sont choisis les logiciels qui sont mis en ligne? Enfin, qui sont mis en libre plutôt. Peut-être qu'on va citer 2-3 exemples, mais sans rentrer forcément dans les détails, pour monter un petit peu le périmètre de libération des codes. Donc, la politique logicielle libre de l'ANSSI.
Alors, l'ANSSI, on est 600, je disais. Sur les 600, il doit y avoir à peu près 500 informaticiens. Je ne sais pas si je dois me compter dans le lot, mais quelque part, j'en fais un peu partie. 500 informaticiens, ça veut dire presque 500 personnes qui développent. Hein, donc, ça, pour des besoins internes. Donc, chacun dans ses métiers, que ce soit au sein des laboratoires pour tester des idées, ou bien les personnes en charge des opérations, c'est-à-dire de l'aide, de la réponse à incident, comme on dit, de l'aide aux victimes, tous ces gens-là développent leurs propres outils. Alors là, pour le coup, en termes d'usage interne, on est très orienté techno libre, parce que voilà, c'est comme ça qu'on peut développer de manière efficace. Et c'est vrai qu'au début, on a beaucoup développé en interne et de manière assez fermée. Parce que le but pour nous, ce n'était pas forcément de libérer du code, c'était bien de tester des choses et d'avoir nos propres outils, sans avoir forcément besoin de nous justifier ou d'avoir des regards extérieurs dessus. C'est une question de maturité. Ce qui fait que quand je suis arrivé il y a un peu plus de 5 ans, il y avait déjà quelques tentatives de démarches ouvertes, mais à chaque fois, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que ça va mettre en danger nos opérations? Est-ce qu'on ne va pas révéler des choses à nos attaquants? Est-ce qu'on ne va pas leur faciliter la tâche?
Crainte assez classique quand on veut mettre en libre, ou en tout cas publier du code. En fait.
Exactement. Chemin faisant, je passe sur les détails. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est exactement inverse. Ce que je demande à mes équipes, c'est de tout mettre en open source, de
par
tout
défaut.
Partager, par défaut, sauf s'il y a une bonne raison pour ne pas le faire. Donc, c'est une inversion totale du paradigme. Et évidemment, les résultats sont très différents. Et en pratique, on se rend compte qu'il y a énormément d'outils qu'on n'a pas... Il n'y a aucune vraie bonne raison pour les garder pour nous. Et au contraire, le logiciel libre, c'est une manière pour nous de développer de la co-construction, de développer des communautés. d'aller chercher de la ressource à l'extérieur, de diffuser du savoir-faire qui va dans le sens d'une meilleure sécurité. Et donc, vous me demandez des exemples. Il y a pas mal d'exemples récents qui sont arrivés, qui ont abouti quelque part. Il y a une démarche de système d'exploitation sécurisé qui s'appelle ClipOS, dont on a libéré une première version, mais surtout avec comme objectif d'encourager la création d'une communauté pour développer la nouvelle version. Donc la version 5 de ClipOS, on compte beaucoup sur la création de cette communauté. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, objectivement. Et le fait d'avoir un OS, alors basé sur des souches Linux, hein, évidemment, un OS qui soit de confiance avec des fonctions de sécurité qui ne sont pas classiques, ça nous semble être un vrai besoin qui aujourd'hui n'est pas forcément couvert par des offres disponibles. On n'est pas non plus là pour faire de la concurrence. Quand il y a les bonnes offres disponibles, évidemment, on ne va pas se mettre en concurrence, ça n'aura aucun sens. Un autre exemple,
juste sur ClipOS, on va peut-être préciser une des spécificités, c'est d'avoir deux environnements de travail différents, l'un pour faire des choses à peu près banales, et l'autre, qu'on appelle sécurisé ou durci, où là, on veut de la sécurité.
C'est ça, il y a deux OS en un, voilà. Quelque part, avec comme cas d'usage le plus classique, un environnement qu'on qualifie de bas, qui va être connecté à Internet, donc forcément plus vulnérable, et un environnement haut, qui lui ne va pas être connecté, donc va être beaucoup plus sécurisé, durci, et puis avec évidemment une maîtrise forte de ce qui se passe entre ces deux environnements, pour éviter que là, le niveau bas contamine le niveau haut en cas d'attaque. Donc ça, il y a plein de cas d'usage, on le voit pour les administrations, mais au-delà de ça, où on a besoin de ce genre de poste. Par exemple, un administrateur, nous on est horrifiés quand il y a des administrateurs réseau qui sont connectés sur Internet, parce qu'on voit tout de suite le chemin d'attaque que ça crée pour les attaquants. Avec un tel poste, ça permet aux administrateurs d'avoir accès à Internet, ce qui est évidemment un besoin qu'on ne nie pas. Et d'autre part, ils peuvent faire leur travail d'administration depuis un niveau haut qui, lui, est protégé. Voilà, c'est juste un cas d'usage.
Donc ça, c'était ClipOS.
Ça, c'est ClipOS. Qu'est-ce qu'on a d'autre en soute ? Récemment, on a libéré un outil qui nous permet de faire de la collecte massive de données sur des réseaux compromis. Donc quand nos équipes opérationnelles arrivent sur un réseau qui a été attaqué, donc compromis par un attaquant, s'il y a 10 postes, c'est facile. S'il y en a 100 000, c'est une autre affaire. Et donc ces outils permettant de faire de la récupération massive des données utiles à l'analyse rapide de ce qui s'est passé, c'est des outils qui n'existent pas aujourd'hui à disposition. Et donc nous, ce qu'on a développé depuis 2011 de mémoire, aujourd'hui ça arrive à un niveau de maturité où on peut le partager, donc on l'a mis en open source.
Ça s'appelle comment ?
DefiOrc.
DefiOrc. ORC.
Donc, entre nous on dit ORC, mais enfin, apparemment c'était déjà pris, donc ça donne DefiOrc. Okay.
Pour outil de recherche de compromission.
C'est ça. Ouais. Okay. Exactement. Et puis après il y a plein de blagues derrière, mais ça c'est des blagues d'informaticiens. Et donc voilà, l'idée c'est bien de partager ça, y compris d'ailleurs avec des sociétés privées qui font de la réponse à un incident et qu'on a envie de développer, parce que ça va dans l'idée que nous on peut pas tout faire, évidemment, et donc plus on aura de prestataires capables de faire le travail avec des outils efficaces, et mieux ça marchera.
Alors j'ai une question qui est très classique qu'on doit vous poser quand vous parlez de ça. Vous mettez en libre, donc en accès, un outil de recherche de compromission. Est-ce qu'il ne peut pas être utilisé, entre guillemets, par le camp adverse, par des méchants, pour compromettre des machines? Je pense que cette question est assez classique.
Donc voilà, c'est ça, c'est typiquement le genre de questions qui sont posées avant de libérer des outils. Et ça, comme c'est des outils comme le déploiement des outils et tout ça se fait de manière, c'est pas un déploiement viral, ça se comporte pas comme un malware, hein, c'est juste de l'automatisation finalement de scripts qui vont chercher les bonnes informations. Quand on fait l'analyse, mes experts me disent qu'il n'y a pas de risque et je leur fais confiance.
Pas de risque d'un détournement voilà. Du usage, en fait.
C'est vrai que sur certains outils, là où ce genre de questions peuvent se poser directement, c'est sur certains outils d'audit, quand on parle de pentest. Il y a certains outils de pentest.
D'accord.
Penetration test. Hein, donc c'est
penetration test, ok.
C'est vraiment
donc des tests de pénétration de système.
Voilà, on a ce qu'on appelle pudiquement des auditeurs qui vont tester la sécurité de système et qui, de fait, se comportent comme des attaquants. Leurs outils pour aller tester la robustesse de la sécurité des systèmes, ça ressemble étonnamment à des outils d'attaque. Donc on a cette problématique classique du statut des outils d'audit qui peuvent assez facilement être transformés en outils d'attaque et inversement. D'accord. Donc là, par contre, on est aux limites. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire, c'est libérer ce genre d'outils-là.
D'accord. Il y a un que je voudrais citer comme exemple, que je voudrais citer parce que je trouve qu'il est particulier, au-delà de l'aspect technique, c'est Suricata,
Exactement.
parce que c'est, vous avez rejoint donc une fondation qui s'appelle l'Open Information Security Foundation. Donc là, ça veut dire que l'ANSI contribue avec d'autres personnes.
Alors là, c'est pas l'ANSI qui est libéré du code.
C'est pas l'ANSI qui est libéré du code. Donc Suricata, c'est quoi et...
Suricata, c'est un projet international qui vise à développer une brique essentielle qui est une brique de détection. On sait aujourd'hui que pour protéger des réseaux, il faut élever le niveau de sécurité, il faut bien les paramétrer, il faut mettre les bons outils. Mais il faut également en permanence être capable de chercher à détecter s'il n'y a pas, malgré ça, une capacité à rentrer à l'intérieur. Et plutôt que de réinventer ça chez nous en interne, on a identifié déjà plusieurs années ces travaux libres particulièrement intéressants. Et aujourd'hui, on développe, on contribue en termes de développement, donc on reverse du code dans ce projet. Et on finance un petit peu pour les aider à survivre. Et quelque part, ça se fait naturellement. Et aujourd'hui, dans d'autres outils d'ailleurs développés par des industriels français, on retrouve ces souches-là parce que finalement, c'est super bien fait, c'est évolutif, ça continue à progresser et ça permet de mutualiser les efforts sur ces outils essentiels. Donc là encore, on est dans une démarche où l'open source permet de mutualiser les efforts, de partager les développements de manière intelligente. Et sincèrement, refermer tout ça ou avoir des solutions propriétaires, pour le coup, je ne connais rien qui arrive à la cheville de ce projet-là pour faire de la détection efficace. Donc là, c'est vraiment un très beau succès.
D'accord. Donc ça s'appelle Suricata. Évidemment, on mettra les références à tous ces outils libres, soit donc libérés par l'ANSI, soit auxquels l'ANSI contribue. Et l'ANSI a également aussi un dépôt ANSI sur GitHub,
ouais.
Qui est une plateforme d'hébergement de code. Alors, le temps file. Vous avez un petit peu parlé au tout début que vous travaillez avec les ministères, car vous êtes une agence qui dépend du Premier ministre. Donc, mais rapidement, quels sont vos liens avec les ministères et quel est votre lien avec la nouvelle, ce qui s'appelle aujourd'hui maintenant la DINUM, donc la Direction Interministérielle du Numérique. Quels sont vos liens de travail avec les ministères et la DINUM?
Alors, on a deux types de liens différents. Il y a d'abord le lien qu'on peut avoir avec l'ensemble des administrations, dans le but de les protéger. On sait que nos administrations, nos ministères sont attaqués régulièrement, et le but, c'est d'élever le niveau de sécurité de leur système au bon niveau, de manière à limiter les attaques. Et en parallèle, on déploie tout un système de détection d'attaques sur l'ensemble du périmètre ministériel qui nous permet de voir ce qui pourrait passer malgré les protections. Donc ça, c'est un premier travail. L'autre travail, c'est d'utiliser les compétences de chaque ministère pour développer une sécurité numérique commune. Donc on travaille évidemment avec le ministère des Armées, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, donc les ministères sécuritaires, on travaille également avec le Quai d'Orsay, il y a une diplomatie cyber aujourd'hui qui est très développée et qui se développe de plus en plus. On travaille avec Bercy parce que la sécurité des entreprises est évidemment un sujet pour eux. On travaille avec la justice pour traiter de plus en plus de cas et développer une pénalisation des crimes cyber. En fait, tous les ministères, petit à petit, rentrent dans notre périmètre, quelque part, dans notre périmètre de coopération. Le dernier en date étant l'éducation nationale.
Alors justement, c'est la question que je voulais noter. Alors le ministère de l'Éducation nationale, est-ce que vous avez un partenariat, mais peut-être des actions.
Depuis un an, on travaille étroitement avec eux. Le but, il est très concret, c'est qu'à la rentrée prochaine, que ce soit un peu au collège, mais surtout au lycée, il y ait assez systématiquement un enseignement en sécurité numérique qui n'est pas vraiment en place aujourd'hui, qui est prévu dans les programmes scolaires, mais ça ne fait pas tout. Et donc, on a un travail aujourd'hui avec tous ceux qui développent les supports, la matière, pour permettre aux enseignants d'enseigner ces questions de sécurité numérique dans les slots, dans les créneaux qui sont prévus au niveau des programmes scolaires. Donc ça, c'est un très haut travail, c'est récent. Je suis très content de ce qui est en train de se passer. Et vraiment, je croise les doigts pour qu'à la rentrée prochaine, nos enfants soient enfin un peu formés à ces questions de sécurité numérique. D'accord. Et peut-être juste pour répondre à la DINUM.
À la DINUM, voilà.
La DINUM, c'est la dans le privé, on parlerait de DSI Group, c'est un peu pompeux. En gros, ce sont les responsables du développement numérique de l'État. Nous, on est responsables de la sécurité numérique de l'État. Les deux doivent travailler étroitement ensemble, c'est une évidence, parce que du numérique non sécurisé, c'est voué à la catastrophe, et de la sécurité abstraite, comme ça, indépendamment de tout projet, ça ne sert à rien. On se fait juste plaisir. Donc, on a vocation à travailler ensemble de plus en plus étroitement.
D'accord. Alors, je relaie une question que je vois sur le salon, donc qui revient au tout début sur la partie sensibilisation. Donc, la question est, est-ce que vous appuyez sur donc, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres pour promouvoir la sensibilisation? Ou est-ce que c'est prévu un jour
Pas assez. Pas assez. Et ça passera très probablement par cybermalveillance.gouv.fr. On est très preneurs de propositions. Enfin, voilà, tout reste à construire. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, sincèrement. Et donc, si moi, je peux aider à mettre en contact, ce sera avec grand plaisir.
Très bien. Alors, La mise en contact va être facilitée en plus, parce que dans ma dernière question, bon, les annonces à faire, je vous laisserai si vous en avez des événements à venir. Vous avez la présence au POS à Paris la semaine prochaine. Si je me souviens bien, vous avez à la fois des conférences et un stand en SI.
Oui,
donc exactement. C'est donc le 10 et 11 décembre 2019 donc à Aubervilliers, donc c'est opensourcesummit.paris, le site web. Et donc ça sera l'occasion de vous rencontrer. Est-ce qu'il y a d'autres événements? Est-ce que vous avez d'autres annonces à faire ou des appels à lancer?
On a plein d'idées. C'est ça qui est sympa à l'ANSSI, c'est que c'est pas les idées qui manquent. En tout cas, pour moi, c'est sympa en interne. On a un gros projet qui est en cours de construction, c'est la création d'un cybercampus. Alors, je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. On voit qu'aujourd'hui, il manque un lieu où les différentes communautés de recherche industrielle, étatique, pourraient construire ensemble de la sécurité numérique. Il y a un écosystème qui existe. On s'entend bien, même très bien. Parfois, alors, l'autre jour, je prenais l'image de Village Astérix 4.0. Mais bon, c'est sympa, le Village Astérix. Enfin, c'est avant tout des gens qui font front ensemble contre des envahisseurs extérieurs. Et donc, c'est un peu ça qui se passe dans la cyber. Les acteurs se connaissent, s'apprécient. Il manque un lieu aujourd'hui. Donc, sous l'impulsion d'ailleurs des plus hautes autorités, on est en train de construire. Alors, c'est pas une initiative de l'ANSSI, hein, c'est vraiment une initiative collective, un tel campus cyber qui devrait se matérialiser par un lieu où on aurait enfin un point d'ancrage de ces questions de sécurité numérique en France. Voilà. Donc c'est un très gros projet, et il faut impérativement que ce projet il soit le plus ouvert possible. Parce que si c'est uniquement un projet d'administration, c'est pas intéressant. Si c'est que des grands industriels, c'est pas intéressant. Si c'est que des start-up, ça existe déjà par ailleurs. C'est vraiment un petit peu tout ça qu'il faut être capable de mettre ensemble. Et la somme de toutes ces composantes, je suis persuadé que sera bien supérieure. Le tout sera bien supérieur à la somme des composantes, voilà, pour dire ça de manière un peu pompeuse. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à suivre, à mon avis.
D'accord. Alors, on aurait pu parler de plein de choses, et je pense qu'on refera une seconde émission parce qu'il y a plein à dire. On aurait pu aussi parler donc de Health Data Hub, la plateforme qui va être annoncée pour développer l'intelligence artificielle dans les données de santé. Mais on va profiter pour annoncer qu'on a une émission consacrée à ce sujet-là, normalement le 17 décembre 2019. Donc on en parlera à ce moment-là et d'autres sujets. Guillaume Poupard, en tout cas, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
À vous. Je suis ravi d'être là. À disposition pour continuer.
Alors, très bien. Donc je lance l'invitation pour la seconde émission en 2020. Donc nous étions donc avec Guillaume Poupard, directeur général donc de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Toutes les références qu'on a citées, on va les mettre sur le site de l'april.org et causecommune.fm. Je vous souhaite une belle fin de journée, Guillaume.
Merci beaucoup.